France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommet aujourd'hui. Quand la Chine se décarbone et à très grande vitesse, un quart de l'énergie consommée dans le pays provient de sources propres aujourd'hui, c'est 10 points de plus qu'il y a 10 ans. Pour quelle raison ? Quel impact sur le réchauffement de la planète ? On voit cela dans un instant et nous parlerons également de la mer Rouge, une marée noire est en passe d'être évité. À la une également, les Jeux Paralympiques, les premières compétitions ce matin, nous y serons. Et nous reviendrons également sur la cérémonie d'ouverture d'hier soir, son message politique avec notre consultante Marie Bauchet et ses artistes qui ont marqué le public à 13h30. Deux d'entre eux seront avec nous, le chanteur et performeur Lucky Love et le chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi. J'attends vos appels. 01 45 24 7000. On va aussi vous raconter l'histoire de ce para-athlète devenu astronaute. À la une encore, cette mauvaise nouvelle pour la santé. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Les jeunes européens se détournent du préservatif.
Oui, une tendance qui se confirme ces dernières années. Étude après étude, moins de 6 jeunes de 15 ans sur 10 l'ont utilisé lors de leur dernier rapport. Inquiétude des professionnels de santé, car cette baisse a des conséquences, avec notamment une recrudescence des infections sexuellement transmissibles.
Vos explications dans quelques minutes. 13h50, c'est la France. Marie-Luce Ribot, du journal Sud-Ouest, rend hommage à un chef qui l'a fasciné, l'un des pères de la nouvelle cuisine, le landais Michel Guérard, juste avant 14h. C'est une chanson, le metteur en scène Julien Aluguette demande « Oh monsieur le dragon bleu » de Chantal Goya. Et puis dans une vingtaine de minutes, dans un autre registre que Chantal Goya, le tube de l'été en France, bonjour Angèle Châtelier,
bonjour.
On a les chiffres et il est l'œuvre d'un artiste que le grand public va apprendre à connaître.
Oui, il s'appelle Carbone, il vient de Montpellier, n'a pas encore sorti d'album et pourtant il est déjà au podium des écoutes.
A tout de suite. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
2800 terrains de football, la superficie du parc Disneyland près de Paris, c'est-à-dire 2000 hectares. Voilà pour vous donner une idée, la dimension de la plus grande ferme de panneaux solaires au monde, mise en service au mois de juin en Chine. C'est l'une des nombreuses illustrations de la révolution qui se déroule en ce moment dans le pays, qui est donc en train de faire sa transition énergétique en mode accéléré. Désormais, plus d'un quart de l'énergie consommée dans le pays provient des énergies propres, affiche le pouvoir chinois. Pour comparaison, la France est à 36%. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Jérôme.
Et c'est donc en grande partie le solaire qui explique ce bond.
Oui, la Chine brille grâce au solaire surtout. D'après ce livre blanc du gouvernement jugé crédible par des experts, la production d'énergie solaire et éolienne a été multipliée par 10 en 10 ans. C'est considérable. La Chine accueille sur son territoire les deux tiers de tous les panneaux solaires et des éoliennes du monde entier. Elle accélère sur les énergies propres, nucléaires compris, mais elle ne réduit pas sa capacité énergétique, elle n'est pas dans une logique de décroissance.
Et la Chine pèse 1,4 milliard d'habitants, on sait que c'est l'usine du monde, c'est donc une bonne nouvelle Célia pour le climat ?
Oui, sans aucun doute, même si elle construit encore des centrales à charbon, le solaire à lui seul dépassera les capacités du charbon chinois en 2026, elle peut donc commencer à réduire ses émissions de CO2, explique Lola Vallejo, experte à l'IDRI, l'Institut du développement et des relations internationales.
Ça reste une bonne nouvelle parce que la Chine pèse à elle seule pour un quart des émissions mondiales, soit presque autant que tous les pays développés. On voit pour la première fois une baisse de la production électrique issue de charbon et de gaz et une utilisation au total moins importante des produits fossiles. Le fait que la Chine soit autour d'atteindre un pic de ses émissions est un pas dans la bonne direction. Évidemment, ce qui va être important, c'est à quelle vitesse elle va ensuite réussir à réduire ses émissions. Mais le fait qu'elle atteigne ses objectifs d'énergie renouvelable avec 6 ans d'avance, c'est une très bonne nouvelle pour la planète.
La Chine est en effet en avance sur ses prévisions et elle promet d'atteindre la neutralité carbone en 2060. Seul bémol, ses usines solaires sont parfois loin des grandes villes de l'Est, Pékin et Shanghai. Elle peine à transporter cette énergie vers son poumon économique.
Merci Célia Kiré. Là aussi, il s'agit d'une information qui intéresse l'ensemble de la planète. La mise en examen hier soir à Paris du patron de la messagerie Telegram, le franco-russe Pavel Durov, arrêté au Bourget le week-end dernier. Ce matin, le gouvernement russe met en garde, je cite, contre toute persécution politique. La justice française lui reproche de ne rien faire contre la diffusion de contenus criminels. Pavel Durov est donc placé sous contrôle judiciaire, une caution de 5 millions d'euros demandée et obligation de pointer 2 fois par semaine au tribunal. Alors Telegram, 900 millions d'utilisateurs à travers le monde et de très nombreuses affaires qui se terminent devant les tribunaux. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Exemple cet après-midi à Paris.
Oui, le tribunal correctionnel juge deux trentenaires qui avaient créé des groupes de discussion consacrés au carding. C'est l'échange de numéros de cartes bancaires volées. L'une des victimes retrouvées par les enquêteurs a vu son identité usurpée avec des emprunts à la consommation souscrits en son nom. Alexandre Lazareg, spécialiste du numérique, est l'avocat d'un des prévenus.
Ils ont utilisé Telegram parce que c'est un mode de communication un peu interlope, en tout cas dans sa réputation. L'une des raisons également de l'enthousiasme que suscite Telegram à l'égard des défenseurs de liberté, comme peut-être de la délinquance, c'est aussi la loi du silence qui a été érigée par les fondateurs de Telegram. Elle refuse de coopérer avec les autorités judiciaires lorsqu'elle fait l'objet de réquisitions et de demandes sur des individus, des pseudonymes qui auraient ouvert des comptes ou qui auraient échangé sur Telegram.
Dans ce dossier, Telegram n'a même pas été interrogé. Les suspects ont été identifiés via leur fournisseur d'accès Internet notamment, mais sur le réseau social, ils discutaient ouvertement de techniques de piratage avec plusieurs dizaines d'internautes.
Et les enquêteurs ont le sentiment, Sarah, que Telegram ne joue pas le jeu en fait contre ces trafics, ce qui expliquerait la mise en examen de son fondateur.
C'est ainsi en tout cas que le parquet de Paris justifie l'ouverture de cette enquête centrée sur ses dirigeants. Parce que Telegram, on l'a vu, apparaît dans de multiples dossiers. Pédocriminalité, trafic, haine en ligne, et parce qu'elle ne répond quasiment jamais aux réquisitions judiciaires, ce dont Pavel Durov s'est défendu devant les enquêteurs. Il aurait affirmé coopérer pleinement en matière de terrorisme et il met en avant une modération de son réseau par de l'intelligence artificielle.
Merci Sarah Guibaudot. Venons-en à ce chiffre qu'on attendait pour savoir si les Français allaient, après les Jeux Olympiques, se passionner ou non pour les Jeux Paralympiques. Eh bien, c'est un départ canon. Plus de 10 millions de téléspectateurs hier soir pour suivre la cérémonie d'ouverture. On va revenir plus précisément dans un instant sur cette cérémonie avec notre consultante Marie Baucher. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous assistez depuis ce matin aux épreuves de cyclisme sur piste. Je vais vous donner la parole dans quelques minutes. Je voudrais d'abord qu'on parle de sport pur avec votre voisin de table qui est avec vous dans ce vélodrome. C'est Gilda Minguy. Bonjour Gilda.
Bonjour Jérôme.
Le paracyclisme, spécialité française, s'il en est, est-ce que les Bleus réussissent leur entrée ?
Oui, effectivement, la France a de grosses ambitions, c'est vrai, en cyclisme, on parle de 20-25 médailles. Marie Patouillet a ouvert le bal il y a une heure avec le 500 mètres sur piste et la Versaillaise s'est qualifiée pour la finale en réalisant le troisième temps des qualifications. Elle peut donc tout à fait prétendre à une médaille et ce serait la première médaille française de ces Jeux Paralympiques de Paris. Tout le vélodrome de Saint-Quentin sera bien sûr derrière Marie Patouillet qui, à 36 ans, dispute sa toute dernière compétition. Elle pourrait tenter de remporter une troisième médaille olympique avec une autre saveur que celle de Tokyo. Là, on serait à domicile. La finale est programmée à 15h45 pour ce 500 mètres.
Quand on vous entend, Gilda, et quand j'entends l'ambiance derrière vous, j'ai l'impression que l'enthousiasme des spectateurs est toujours le même au vélodrome. On va voir comment ça se passe à la piscine, l'aréna de Nanterre qui a tant vibré avec Léon Marchand et les autres. Bonjour Sophie Constanzer.
Bonjour Jérôme.
Est-ce que le public est déjà au rendez-vous ?
Eh bien, c'est le retour des drapeaux et des cris dans cette Paris Défense Arena qui a vibré, vous l'avez dit, avec le grand Léon et qui vibre désormais pour Hugo, Emeline et Alex. Dès 9h30, l'aréna était quasi pleine et Mathias et Damien ne s'y attendaient pas.
On avait vu quelques reportages sur les athlètes français et on voulait les soutenir, donc c'était aussi pour ça qu'on a choisi la paranatation.
C'est impressionnant, surtout pour les séries, d'habitude c'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de support, surtout pour les Français.
Avec son fauteuil roulant, Romain est au plus près du bassin et il confirme l'ambiance des JO est de retour.
Je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde que les Jeux Olympiques classiques, mais au final, il y a quand même beaucoup de monde et beaucoup de monde bien actif. Quoi. On entend ça crie, ça hurle, ça chante. Tout à l'heure, pour Didier Hugo, c'était pour le 400 mètres nageur, ça a crié, ça a scandé.
Il y avait jusqu'à 35 000 personnes par jour pendant les JO. On verra si ce soir, pour les premières finales paralympiques, le public confirme, Jérôme.
Un mot des performances de la matinée, Sophie, sur les 5 Français en lice ce matin lors des séries. 4 se sont qualifiés pour les finales.
Oui, avec la très belle performance d'Alex Portal qui a signé le deuxième temps sur 100 mètres papillon dans sa catégorie des déficients visuels et la très belle performance d'Hugo Didier, le Toulousain, sur 400 mètres nage libre. Deux Françaises seront à suivre également. La jeune Marseillaise Agathe Poli, 21 ans seulement, et Emeline Pierre, l'ancienne gymnaste devenue nageuse, qui est attendue sur 50 mètres nage libre.
Et on vivra toutes ces épreuves avec vous, Sophie Constanzer, en direct de la Paris Défense Arena avec Corentin Bailly pour les moyens techniques. Marie Bauchet, je reviens vers vous parce qu'évidemment, on suit ces épreuves, mais on a envie de savoir ce que vous avez pensé de la cérémonie d'ouverture d'hier soir. Qu'avez-vous ressenti, Marie ?
J'étais particulièrement émue, c'était une belle cérémonie et j'ai surtout été très émue de l'entrée des athlètes qui descendaient les Champs-Élysées. Je crois qu'on a offert aux délégations paralympiques la plus belle avenue de Paris, la colonne vertébrale de notre capitale. Et du coup, j'ai eu envie de croire et d'espérer que cela illustrait peut-être la place qu'on voulait donner aux personnes en situation de handicap dans notre société et ses priorités. En tout cas, je l'espère. Et puis, j'ai aimé ce terme aussi de révolution utilisé dans les discours officiels et la volonté, du coup, de renverser la table des préjugés. C'est en tout cas la volonté, je crois, que Thomas Joly et Alexander Ekman, avec lesquels j'ai eu l'opportunité d'échanger en amont de cette cérémonie, comme d'autres athlètes paralympiques, ils nous avaient sollicité pour comprendre ce que nous, acteurs du mouvement paralympique, on voulait vraiment voir dans cette cérémonie et les messages qu'on voulait réellement passer. Et j'ai retrouvé quelques sujets de discussion qu'on avait eu ensemble.
Ça peut être un peu casse-gueule, Marie, pardonnez-moi l'expression, de faire passer des messages sur le handicap.
Et oui, parce que je crois que le gros premier problème en France, c'est qu'on n'y est pas assez confronté. C'est complexe parce qu'on méconnaît. Et en fait, tout ce qui est inconnu fait un petit peu peur. Et du coup, je pense que c'est ce qui a été montré dans le premier tableau de la cérémonie, où justement il y avait cette opposition un peu entre les deux sociétés, les personnes en situation de handicap et puis les personnes de la strict society, comme ils l'ont appelé, qui du coup étaient voilà, un peu peureux, savaient pas trop comment aborder les personnes en situation de handicap. Et je pense que c'est pour ça que voilà, il faut en parler. C'est pour ça que dans cette médiatisation, il faut mettre l'accent sur les Paralympiques aujourd'hui, se servir de cet événement qu'on a la chance d'avoir en France. Parce que je vous raconte juste une petite anecdote avec mon neveu qui a eu quelques sensibilités avec l'école, et ils lui ont présenté la frige et la frige paralympique avec sa petite jambe. Et une fois, il a vu mon petit bras et il m'a dit, mais en fait, toi, t'es une personne handicapée, cet enfant à 3 ans. Et je lui dis, bah oui, j'ai un handicap. Et il me dit, mais comme frige, en fait. Je lui dis, bah oui, comme frige. Il me dit, mais frige, il fait du sport, hein, c'est cool. Hein. Et du coup, pour cet enfant de 3 ans, d'avoir été confronté et d'avoir eu cette sensibilisation au handicap, bah en fait, pour lui, tu peux être handicapé et faire du sport, donc c'est cool, en fait, d'être handicapé. Et je trouve que voilà, c'est un message qui est important et j'espère que c'est ce que vont apporter ces Jeux en France.
Les mots que l'on emploie, Marie Bauchet, ils sont extrêmement important. Il y a eu des polémiques ces derniers jours sur l'expression super-héros pour qualifier les athlètes paralympiques. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les athlètes paralympiques, ils souhaitent avant tout qu'on parle de leurs performances, qui sont souvent, très souvent, des réels exploits sportifs. On le voit aujourd'hui au cyclisme, c'est des athlètes incroyables avec des musculatures développées assez impressionnantes. Et en fait, il faut, voilà, eux, ils veulent pas qu'on ait besoin de survaloriser leurs performances par leurs histoires de vie. C'est des athlètes avec un handicap et non des handicapés qui font du sport, et c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Mais dans cette médiatisation grandissante, voilà, il est important de poser les bonnes fondations, les messages envoyés. Toutefois, je crois qu'il est aussi important d'apprécier les démarches naturelles et non forcées de certaines personnes influentes, même si elles ne sont pas encore tout à fait à l'aise avec le sujet. L'important, selon moi, pour les jours qui viennent, là, en France, c'est qu'on parle des Jeux paralympiques, qu'on parle des personnes, des athlètes qui se sont entraînés, qui font des performances incroyables, et qu'on montre que même avec un corps différent, il y a de très belles choses à réaliser.
Merci Marie, avec les moyens techniques de Frédéric Kérou, Marie Bauchet, 8 fois championne paralympique de ski alpin, notre consultante sur ces Jeux. On se retrouve demain, on va reparler à partir de 13h30 de cette cérémonie sous l'angle artistique, cette fois. Mais un dernier mot tout de même de l'une des personnalités qui y a participé, c'est un athlète britannique qui est devenu astronaute. Incroyable histoire. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Hier soir, place de la Concorde, c'est John McFaul qui a porté le drapeau paralympique dans sa tenue de l'Agence spatiale européenne.
Oui, il arborait fièrement son écusson de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, sur cette tenue bleu marine. Sourire aux lèvres, John McFaul, 43 ans. Et vous le disiez déjà, mille vies, s'est lancé il y a 2 ans dans une des plus grandes aventures de sa vie.
The next thing we do is zero gravity.
Sur cette vidéo de l'agence spatiale, il expérimente l'apesanteur sur un vol parabolique. Lui qui a perdu sa jambe droite, amputée après un accident de moto à l'âge de 19 ans, il renonce à l'armée, se lance dans l'athlétisme, sélectionné aux Paralympiques. Il est médaillé de bronze en 2008 à Pékin sur le 100 mètres. Il reprend ensuite des études de médecine. Il devient chirurgien orthopédique au Royaume-Uni et c'est un collègue médecin qui lui parle de l'agence spatiale. Elle cherche à recruter pour étudier la possibilité d'envoyer une personne handicapée dans l'espace, multidiplômée, sportif. Forcément, il coche toutes les cases et devient le premier para-astronaute de l'ESA.
Pour moi, cette étude, ce n'est pas seulement pour savoir si on peut envoyer quelqu'un comme moi avec un handicap dans l'espace, mais elle ouvre des portes. Pourquoi ne pas parler maintenant des autres handicaps et pourquoi ne pas inciter les personnes qui souffrent d'autres handicaps à faire un travail dans l'espace qui a du sens?
John McFaul n'a aucune garantie pour l'instant qu'il pourra un jour voyager jusqu'à la Station Spatiale Internationale et l'étude se terminera en fin d'année.
Merci Rémi Brancato et j'attends toutes vos questions et vos appels sur cette cérémonie d'ouverture 01. 45, 24, 7000 pour interpeller nos invités à partir de 13h30. La menace était grande d'une catastrophe écologique en mer Rouge. Les rebelles Houthis du Yémen ont touché la semaine dernière un pétrolier battant pavillon grec. Les Houthis, on le sait, soutiennent le Hamas dans sa guerre contre Israël et font feu régulièrement sur des navires occidentaux. Cette fois, il y a donc crainte de marée noire. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
Les Houthis disent accepter une trêve temporaire pour secourir ce bateau.
Oui Jérôme, officiellement, ils ont donné leur feu vert pour des raisons humanitaires et environnementales. En réalité, ils l'ont surtout accepté sous la pression de l'Iran, le parrain des rebelles yéménites. C'est d'ailleurs la mission de la République islamique à l'ONU qui en a fait l'annonce, une façon pour Téhéran de montrer son influence sur cette zone stratégique de la mer Rouge. Le risque d'une marée noire gigantesque, peut-être de l'ampleur de celle de Alexandre Valdez en 1989 en Alaska, était menaçant. Le Sounion, touché par des missiles et des drones au large du port de Daïda, transporte 150 000 tonnes de pétrole brut. Son équipage, 23 Philippins et 2 Russes, a été secouru par un navire de la mission Aspides de l'Union Européenne. Un responsable de l'opération avait averti qu'un tanker à la dérive sans équipage représentait un danger pour la navigation et l'environnement. Au final, le feu vert des Houthis devrait donc permettre d'éviter le pire avec l'acheminement de remorqueurs et de navires de sauvetage pour sécuriser et prendre en charge le Sounion.
Christian Chesneau pour ses précisions.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Deux jours en Serbie pour Emmanuel Macron pour parler notamment relations avec l'Union Européenne et avions de combat. Début de la visite cet après-midi. Autrement dit, la nomination d'un Premier ministre va encore attendre. On va en reparler dans un instant. Un flou qui a le don d'irriter de nombreux secteurs économiques qui attendent des réponses. À commencer par l'agriculture, Agnès Soubiran, les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs tenaient leur conférence de presse de rentrée ce matin. Fièvre catarrhale à l'ovine, mauvaise récolte de blé, le ciel est sombre.
Il n'y a pas eu de trêve estivale pour les agriculteurs. Trop de pluie, une nouvelle pandémie et des réponses qui se font attendre.
Moi, je ne peux pas expliquer aux agriculteurs qui n'étaient pas en vacances et qui n'étaient pas au JO que depuis le 9 juin, on ne peut rien décider dans ce pays.
Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA.
Et la réalité aujourd'hui pour un éleveur ovin, c'est que tous les matins, quand il rentre dans sa bergerie, il a des brebis étalées. Et bien ça, c'est pas tenable. Et donc, il ne faut pas lui dire, on est désolé, il n'y a pas de gouvernement, rappelez-nous dans un mois, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Ça, ça tient pas.
Des difficultés conjoncturelles qui s'ajoutent à des difficultés structurelles. Exprimé en début d'année. Le chef de l'État avait alors promis des aides, notamment des prêts garantis par la Banque publique d'investissement. Un système qui n'est toujours pas entré en vigueur, regrette Pierrick Aurel, le président des jeunes agriculteurs.
Rien, pas un dossier sur l'ensemble du territoire. Ça nous interroge. Que vaut cette parole politique finalement devant l'ensemble des agriculteurs si maintenant, 6-8 mois après, on ne l'a toujours pas sur les comptes.
Les deux syndicats ont donc rédigé un projet de loi et espèrent des réponses rapides sous peine de nouvelles manifestations.
On a fait des propositions, elles sont sur la table. Et si le futur gouvernement, quelle que soit la couleur politique, ne répond pas à ces questions, évidemment la colère reviendra.
Et dans l'immédiat, les éleveurs espèrent des annonces demain, lors du déplacement du ministre de l'Agriculture en Saône-et-Loire.
Alors pour apporter des réponses, il faut un gouvernement. Emmanuel Macron poursuit ses consultations aujourd'hui avant de s'envoler pour Belgrade. Parole aux élus des collectivités, dont deux présidents de région ce matin. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et la socialiste Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui, contrairement au patron du PS, Olivier Faure, a donc répondu à l'invitation.
Ça, c'est une position d'Olivier Faure qui n'a pas été validée par le parti. Nous continuons à dire qu'il est nécessaire que la gauche soit dans une démarche exigeante, mais constructive. Donc la gauche, elle doit proposer 5 mesures prioritaires, dire concrètement voilà ce que nous voulons faire. On a entendu votre message. Vous ne voulez pas l'extrême droite, vous ne voulez plus des politiques macronistes, mais pour autant, vous n'avez pas donné la majorité absolue au nouveau Front populaire. Donc voilà pour nous les priorités, et voilà pour moi, c'est un Premier ministre, oui, en effet, de gauche, parce que ceux qui ont gagné, ce sont tous les républicains. Dans ce Front républicain, la tendance, je reste lucide et modeste, la tendance est plutôt à gauche, et donc je pense qu'il se doit être un Premier ministre de gauche.
Carole Delga, à sa sortie ce matin de l'Élysée, au micro d'Aurélie Herbemont. En début d'après-midi, le président de la République s'entretient avec François Sauvadet, le président des départements de France. La candidate du nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castet, elle va quitter la mairie de Paris sans démissionner pour autant de la fonction publique, dit-elle, mais pour continuer la politique, malgré la décision d'Emmanuel Macron de ne pas la nommer à Matignon. C'est une des préoccupations de la rentrée, et même avant, si les familles veulent être sûres d'avoir une solution. La garde des enfants, chez soi ou chez une assistante maternelle. Eh bien, les tarifs sont en hausse. La plateforme de services à domicile Youpiz présente son baromètre annuel à partir des données de l'URSSAF. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Et la hausse est bien plus forte que celle de l'an dernier.
Oui, 3,96 € par enfant accueilli. C'est le salaire horaire net moyen en cette rentrée pour les assistantes maternelles, premier mode d'accueil des jeunes enfants. Un chiffre en hausse de plus de 4% par rapport à l'an passé. Ce salaire moyen varie selon les régions. La Corse cumule l'augmentation de tarifs la plus forte, plus 9%, et la palme du coût horaire le plus élevé, 4,86 € par heure et par enfant, suivi par la région PACA et l'Île-de-France. Quant à la garde d'enfants au domicile familial, il faut compter 10,50 € net de l'heure en moyenne, chiffre en hausse également de près de 4%. La plus forte augmentation en Bourgogne-Franche-Comté. La région reste l'une des moins chères, cependant, avec les Hauts-de-France et le Grand Est. Des hausses inégales de tarifs qui s'expliquent par le jeu de l'offre et de la demande. L'offre d'accueil est très inégalement répartie sur le territoire. Il y a aussi l'inflation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, mais surtout, plus structurellement, le manque de professionnels qui va aller en s'accentuant. D'ici 2030, 44% des assistantes maternelles en exercice seront en âge de partir à la retraite, rappelle la Fédération des particuliers employeurs.
Merci Delphine Simon. Un féminicide à Metz hier en début d'après-midi. Une femme d'une quarantaine d'années a été mortellement blessée à l'arme blanche. Son ex-conjoint et la nouvelle compagne de celui-ci ont été interpellés. En Gironde, ce sont des départs de feu à répétition qui gâchent la vie des habitants de la commune de Reignac, ça se situe au nord du département. 7 départs en seulement un mois et demi et toujours dans le même lieu dit d'une vingtaine de maisons. Dernier feu en date dimanche dernier chez un résident touché déjà 2 fois. Alors Anaël Cagnon, les riverains organisent désormais des rondes.
Dans ce petit hameau où l'herbe est sèche, les départs de feu sont au cœur de la vie des habitants, mais difficile d'en parler.
Tous les soirs, on a peur.
Christian habite ici depuis 20 ans. Depuis qu'il a vu les flammes de près, il ne quitte plus sa maison.
J'entends cramer, une odeur de cramer. Je me lève et puis hop, j'ai vu les flammes là. Là, ça a pris feu là. Après, ça a pris feu juste derrière dans le dentier. Ça met des angoisses aux gens. Pour l'instant, c'est dans les sapinettes, mais ils peuvent mettre le feu dans ma maison ou dans ma voiture, ça nous fatigue.
Ici, tout le monde a fini par mettre des caméras. Jean et Janine, eux, ont été touchés plusieurs fois après avoir été victimes de vols de matériel.
Nous, on a terminé notre ronde, il était 2h, 2h05. À 2h15, il y a quelqu'un qui est venu frapper à nos volets. Oui. Pour dire, il y a le feu.
Oui, oui. Une odeur de brûlé qui persiste dans leur haie grignotée par les flammes.
Oh non, ça me stresse, ça me rend malade. Quoi. Alors, on a dormi là. Cette nuit, on a dormi dans la voiture.
Pour eux, l'auteur connaît forcément le village car il passe par des accès non visibles depuis la route. Jean a donc écrit au procureur et à la sous-préfecture.
Cette lettre est un appel au secours car ce n'est pas quand il y aura des maisons brûlées ou et des morts qu'il faudra intervenir. On n'est peut-être pas à l'abri de quelqu'un qui perde le contrôle et qui fasse justice lui-même.
Car certains finissent par veiller avec un fusil. La lettre est signée par tous les riverains. Ils attendent que le coupable soit pris pour retrouver le sommeil.
Reportage France Bleu Gironde. Une enquête est en cours sur place, nous assure le parquet de Libourne. Nous en parlions en quelques mots il y a quelques minutes. Les adolescents européens utilisent donc de moins en moins les préservatifs lors de leurs rapports sexuels, constat de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les données de 242 000 jeunes ont été étudiées. Victor Dolande, on vous retrouve. En 10 ans, Victor, la proportion de rapports sexuels non protégés a fortement augmenté sur le continent. Ça vaut pour tous les pays ?
Oui, entre 2014 et 2022, la proportion d'adolescents de 15 ans ayant utilisé le préservatif lors de leur dernier rapport sexuel est passée de 70 à 61% chez les garçons et de 63 à 57% chez les filles. C'est plus particulièrement le cas dans une dizaine de pays du continent européen avec l'Albanie, l'Arménie, la Grèce et la France en tête. On l'a vu dans plusieurs études ces derniers mois. Autre preuve, Emmanuel Macron a lancé il y a un an et demi la gratuité des préservatifs pour les 26 ans en pharmacie. Flop total.
Ça marche pas.
Un an après, seuls 5% de ces jeunes avaient franchi la porte des officines pour en réclamer. C'est un flop. Pour la gynécologue Julia Maruani, cette baisse du recours aux préservatifs est en grande partie une conséquence du recul du VIH et de la peur qui était associée.
Aujourd'hui, ça n'existe plus beaucoup. On n'a plus trop peur d'infection, c'est qu'on peut vivre avec, être traité. Et donc, les autres infections sexuellement transmissibles sont moins connues et moins inquiétantes, probablement, auprès du public. Et donc, on voit petit à petit cette baisse d'utilisation des préservatifs.
Et car ces infections sexuellement transmissibles, elles ne reculent pas. Au contraire, les chlamydia et syphilis, pour ne citer qu'elles, ont très fortement augmenté ces dernières années en Europe et en France. Il faut donc renforcer l'éducation sexuelle à l'école, selon l'OMS, qui n'est pas toujours bien assurée. Pour Julia Maruani, il faut aussi compter sur les parents.
Les parents parlent pas assez de sexualité, de contraception, d'IST avec leurs enfants. Il faut mettre des préservatifs aussi à la maison en accès. C'est pas parce qu'on propose à un jeune d'avoir dans le placard des préservatifs qu'il va démarrer sa sexualité pour autant. Mais par contre, il va plus souvent utiliser des préservatifs.
Rappelons enfin que ces infections sexuellement transmissibles entraînent des douleurs chroniques et renforcent l'infertilité, notamment chez les femmes.
Victor Dolande. Ce titre vous dit-il quelque chose? Si la réponse est non, c'est soit que vous avez quitté le pays cet été, soit que vous êtes bouché les oreilles en permanence. C'est Imagine du Montpelliérain Carbone, titre le plus écouté sur la plateforme Spotify cet été en France. Le titre est deuxième sur la plateforme Deezer. Angèle Châtelier, vous nous avez rejoint. Tout cela presque par hasard.
Oui, mi-avril, Carbone, Pierrot Onofrio Carbone de son vrai nom, 27 ans, est en studio avec des amis musiciens. Il se filme comme pour faire une bande-annonce de ses titres à venir à sa jeune communauté à l'époque. Il poste ça sur TikTok et se réveille le lendemain matin avec 2 millions de vues.
POV, le son n'est pas sorti, était pop sans ambiance, comme si c'était le son de l'été.
Face au succès, la chanson est terminée dans l'urgence, raconte son entourage. Il ne faut pas louper le coche. Et pour cause, dès sa sortie, elle se classe numéro 1 des écoutes de singles. Certains le connaissent alors pour ses freestyles, son rap improvisé sur les réseaux sociaux ou en radio. Mais ce qui plaît chez lui, c'est son goût de la chanson, du texte et des mélodies. Plus jeune, il a appris le piano, la batterie. Alors très vite, ses chansons deviennent plus pop, s'inspirent de ses origines espagnoles, de son père, amoureux de la guitare, au point d'être repéré par une maison de disques en 2023.
C'est samedi soir, à force de boire, j'ai cette voix dans ma tête qui me dit frérot, va la voir, aime regarder.
Aujourd'hui, Carbone n'a même pas encore sorti d'album, qu'il a déjà fait les premières parties de grands rappeurs, Youssoupha, Lorenzo, Big Flo et Oli dans un stade fin juillet. Il entamera sa première tournée à l'automne, alors qu'il y a quelques mois, il était encore sur les bancs de sa fac d'économie.
Pourquoi je l'ai laissé seul?
Merci Angèle Châtelier. Carbone avec deux N. Je le précise, au niveau mondial, c'est le titre Birds of Feather. Ce sera peut-être Carbone dans quelques années, on verra. Mais pour l'instant, c'est Billie Eilish qui a dominé le classement des tubes cet été. Et sachez que les tubes des JO, ceux d'Aya Nakamura, notamment, reprise de Charles Aznavour par exemple, ou le tube de Kavinsky, Night Call, ont eux aussi vu leur écoute exploser. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Et puis on va reparler de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques hier soir. 10 millions de téléspectateurs et des coulisses à découvrir grâce à deux grandes figures artistiques. Le chef Jean-Christophe Spinozzi avec nous dans quelques minutes. Et puis l'artiste qui a crevé l'écran hier soir, Lucky Love, chanteur et performeur, sera en ligne également avec nous. Manon Derdevé aussi, notre reporter qui a suivi tous les préparatifs. J'attends vos appels. 01 45 24 4-7000. 13h45, nous sommes à l'école de la transition écologique. Cette école où les métiers manuels de l'environnement permettent à des jeunes de reprendre leurs études. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marilus Ribot du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marilus, notre spécialiste gastronomie. Je suis ravi de vous retrouver Marilus pour cette nouvelle saison. Et vous allez nous parler aujourd'hui du formidable destin d'un grand chef qui vient de nous quitter, c'est Michel Guérard.
Oui Jérôme, et ainsi s'achève l'un des plus beaux chapitres de la gastronomie française, celui de la nouvelle cuisine. Nous sommes à la fin des années 60, Michel Guérard et quelques autres osent l'impensable, pulvériser les recettes empoulées du 19e siècle.
A tout de suite, Marilus. Et avec vous, Frédéric, un metteur en scène.
Julien Aluguette, qui signe la mise en scène de la pièce Les Marchands d'étoiles, gros carton au festival Off à Avignon. Et c'est une chanteuse qui cartonne depuis plus de 50 ans qu'il a voulu que l'on écoute. Une chanteuse qui a déclenché son envie de faire des spectacles. Il s'agit de Chantal Goya.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Attention événement. Blanc, de Sylvain Tesson, vient de paraître en poche. L'écrivain voyageur nous entraîne dans une éblouissante traversée des Alpes à ski. Un récit plein de sagesse sur la beauté fragile de notre monde. Blanc, de Sylvain Tesson, disponible en folio.
C'est le bruit d'une vie un peu trop animée. Stop ! Boost ton mood dans plus de 800 clubs Basic Fit. Profite de notre offre sur basic-fit.fr. Basic Fit, go for it. Go for it est égal lancez-vous. Mood est égal humeur.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec O2 et nos 16 000 experts qui vous accompagnent partout, tout le temps, par tous les temps. Respirez, O2 est là.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est orageux à l'ouest. Aujourd'hui, c'est estival à l'est.
Oui, sur les Pyrénées, la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'au Pays de la Loire et au centre-Val de Loire, on a des averses orageuses qui circulent. Elles progresseront vers le bassin parisien et les Ardennes ce soir et cette nuit, mais en attendant, les éclaircies sont plutôt belles. De la Bretagne au Pas-de-Calais, le soleil domine. Beaucoup de soleil aussi sur les deux tiers est, un peu voilé quand même de l'Occitanie à la Lorraine. Et puis à nouveau, plus de nuages en montagne, quelques averses, voire un orage sur le sud des Alpes et le relief corse. Les températures baissent à l'ouest, mais restent très élevé à l'est, 20 à 27 degrés attendus de l'océan vers le nord de la Seine, souvent 28 à 32 degrés ailleurs, et jusqu'à 33 à 35 entre la Provence, la vallée du Rhône et l'Alsace. Pour cette nuit, une nouvelle salve orageuse va gagner l'Aquitaine, et demain, on retrouvera des averses orageuses sur l'ouest jusqu'au nord de la Seine.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Nous sommes incorrigibles, nous avions envie dans ce 13-14 de prolonger le plaisir que nous avons eu hier soir d'assister à cette cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, d'y assister comme 10 millions de téléspectateurs. Alors certes, c'était 24 millions pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais 10 millions, c'est un chiffre considérable et jamais vu en France pour une telle cérémonie. On a parlé tout à l'heure de l'aspect sportif avec notre consultante Marie Bauchet. On va s'intéresser maintenant à la partie artistique et il y a tant à dire avec deux des personnalités qui ont marqué cette soirée. Avec nous, ici en studio, le chef d'orchestre et violoniste Jean-Christophe Spinozzi. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez gardé ce sourire qui était le vôtre pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Parce que vous étiez au Stade de France il y a quelques semaines. Quelle histoire pour vous, Jean-Christophe Spinozzi ?
Oui, oui. Plus exactement, j'ai fait l'ouverture aux Tuileries, les 10 premières minutes de la cérémonie de clôture, c'est avant ça. Que ça ne bascule voilà. Au Stade de France. Et c'est vrai que c'est une joie de pouvoir être à deux cérémonies. Dans les mêmes Olympiades, il paraît que c'est une première pour un artiste, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais je n'ai pas vérifié.
Donc vous êtes passé des Tuileries à la Concorde, c'était pas très loin,
oui, oui.
Il faut bien le dire. Avec nous également Manon Derdevé. Bonjour Manon.
Bonjour.
Journaliste à la rédaction d'Inter, vous avez suivi tous les préparatifs
Absolument. De
cette cérémonie. Vous allez donc pouvoir répondre aux nombreuses questions qui nous arrivent déjà. 01 45 24 7000, venez poser vos questions, venez réagir aussi ce que vous avez ressenti hier soir devant cette cérémonie avec un message artistique, message sportif, message politique aussi, et on va en parler, vous passez aussi via l'application de France Inter. Et puis nous sommes en ligne avec le chanteur et performeur Lucky Love. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter. Vous avez, je le disais hier, Lucky Love, hier soir, crevé l'écran. Beaucoup de téléspectateurs vous ont découvert. Ce look à la Freddie Mercury, cette moustache, ces lunettes de soleil et cette performance incroyable que vous avez terminée torse nu, laissant voir votre bras manquant, votre bras gauche manquant. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur cette scène de la place de la Concorde pendant cette performance? On parlera ensuite des paroles de votre chanson.
Évidemment, j'ai ressenti le vertige d'abord, comme le disait une actrice avant moi, Audrey Tautou, je pense, le vertige de ma situation, c'est vertigineux, magnifique. Et puis ça donne sens. C'était pour moi en tout cas à mon échelle personnelle, ça a donné sens à beaucoup de choses. Et j'espère que ça a pu aussi donner du sens dans le cœur des gens qui ont pu regarder cette cérémonie.
Vous dites c'est vertigineux au regard de votre parcours, Lucky Love.
Oui, c'est vertigineux au regard de mon parcours et puis au regard aussi de finalement, je pense qu'un artiste se doit d'être le témoin de son époque. Et je voulais être à la hauteur de mon époque. Je voulais être à la hauteur du moment. Et voilà.
My Ability, c'est le titre que vous avez interprété hier soir. C'est une réflexion sur le genre et sur la norme. La norme que parfois la société impose à nos corps.
Évidemment, je pense que, comme j'ai pu souvent le dire, je pense en effet qu'il n'y a pas réellement de handicap. Je pense qu'il y a des différences, qu'on a des corps différents. Mon bras, je l'ai pas vécu du tout moi comme un handicap puisque je suis naissant, donc je n'ai rien connu d'autre. Et donc ma réalité est telle que pour moi, il n'y a rien de manquant. Mon bras n'est manquant que dans les yeux qui me regardent. Et du coup, je pense que la grande mission de cette chanson, c'était de montrer la beauté de la pluralité finalement, et de se rendre compte que nous ne sommes pas des héros, nous sommes des êtres humains. Et alors oui, ce monde dans lequel nous vivons est peut-être moins adapté à notre personne ou à notre corps, mais finalement, moi, je l'ai découvert à travers mon propre corps. Je pense qu'on a une capacité d'adaptation qui est folle, et c'est ça que je voulais célébrer. Je voulais vraiment célébrer tous nos corps
et le montrer. Et toute notre humanité. Ce que vous avez fait.
Évidemment le montrer, en montrer la beauté aussi, en montrer ce qu'on peut faire avec, justement de façon chorégraphique ou scénique. C'était aussi une façon de montrer que finalement, peut-être qu'une personne avec deux bras n'aurait pas pu faire ça. Et c'est ça qui était beau, c'était réellement de pouvoir célébrer pour une fois la beauté d'un corps différent, des corps différents.
Message de Véronique qui nous dit « J'étais très enthousiaste, une cérémonie qui a honoré la France est un beau message qui a mis en valeur les personnes porteuses d'un handicap ». Jean-Christophe Spinozzi, vous qui vous êtes produit comme chef d'orchestre dans la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, puis dans celle des Paralympiques hier soir, y a-t-il eu une différence pour vous d'approche? Est-ce que vous avez vécu deux moments différents? Parce qu'évidemment le sens n'était pas le même.
À l'arrivée, oui. Au départ, c'était, j'imaginais, je projetais sur deux moments de communion avec toute l'émotion qu'on attendait, enfin que j'attendais personnellement. Et en fait, hier, j'ai vraiment été bouleversé par les chorégraphies, par l'instant, par le génie artistique d'avoir des danseurs qui étaient tous unis malgré justement, c'est toujours les mêmes mots qu'on entend, mais malgré les quelques différences qu'il pouvait y avoir d'un corps à l'autre, ça, il y avait une communion parfaite. Et je sais pas comment ça s'est senti à la télé ou en retransmission, mais c'était vraiment sur le moment, moi j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux, c'était vraiment merveilleux. Donc il y avait la cérémonie des Paralympiques a porté un élément particulier au-delà du message politique. Moi je retiens que la plus grande efficacité pour faire passer des messages les plus importants, c'est l'émotion, et l'art peut servir à ça justement, à fédérer à travers l'émotion, à faire réagir les gens, à les bouleverser, à les transformer, à les dépouiller de leur certitude. C'est pas une phrase de moi, mais mais c'est de Nicolas Sardoncourt, voilà, grand chef d'orchestre. Mais voilà.
Votre orchestre a interprété hier cette version de la Marseillaise. version très dépouillée, sans parole, pas chantée évidemment, Jean-Christophe Spinozzi. Vous pouvez nous en dire plus, comment vous avez approché cette Marseillaise?
C'est un arrangement de Victor Lemann,
Victor Lemann, ouais,
bien sûr, et qui a fait un très gros travail sur les quatre cérémonies, et qui en plus est très sympa. Je pense que c'est... Il y a des gens qui ont été étonnés par le côté non martial de l'hymne, mais moi je trouve très 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 intéressant de pouvoir décliner selon le moment. En fait, tout est relatif dans la vie. Comme le disait Lucky Love, pour lui, la relativité de son bras qui n'est pas manquant, ouais, par rapport aux autres. Et du coup, d'un seul coup, certes, il manquait le côté martial à cette Marseillaise.
C'était pas la même que celle qu'on chantait dans les stades ces dernières semaines.
Mais en même temps, ça rassemblait les gens autour d'un élément un peu différent. Cette profonde émotion, cette communion, c'était la musique de la communion.
Laetitia nous appelle de Lille. Bonjour Laetitia.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui vous a touché dans cette cérémonie que vous avez regardée, je crois?
Oui, et surtout, je m'adressais à Jean-Christophe Spinozzi, que je connais depuis fort longtemps, que j'allais voir au Châtelet dans les dimanches matins. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'en fait, l'exigence de la musique soit là et qu'elle soit donnée au plus grand nombre et à la sensibilité de chacun. Et vraiment, la Marseillaise était merveilleuse, son enthousiasme était communicatif comme d'habitude.
Merci beaucoup.
Merci Laetitia. Avec la Tour Eiffel qui s'est illuminée derrière vous, Jean-Christophe Spinozzi, ça veut dire qu'il fallait commencer à un moment précis?
Alors on nous disait 5-4-3-2, voilà, pour partir. J'avais une oreillette et on avait nos départs à la seconde près. Hein. C'était, fallait pas rigoler là.
On a beaucoup de questions des auditeurs de France Inter pour vous, Manon Derdevet. Deux auditeurs se demandent pourquoi se défiler à pied ou en fauteuil des para-athlètes, Chantal de Vénissieux et Jean de Grenoble notamment. Pourquoi les athlètes valides ont défilé sur des péniches, donc ils n'ont pas bougé, alors que les para-athlètes ont dû se présenter en marchant?
Eh bien, j'étais pas dans l'organisation, ouais, de la cérémonie, mais peut-être que justement dans la continuité de ce qu'on disait sur montrer les différents décors et puis peut-être aussi les capacités de chacun à évoluer,
à se mouvoir,
c'était peut-être aussi un message de Thomas Joly et de Thierry Reboul qui ont imaginé toute l'organisation de cette cérémonie pour montrer que les athlètes paralympiques sont aussi capables de défiler. C'était une parade populaire, hein. Ça voulait vraiment être une communion avec le public. D'ailleurs, il y avait toutes les places gratuites, hein, qui étaient le nom des
Champs-Élysées. Les 15 000 places gratuites au bas des champs.
Absolument. Et je pense que c'était pour montrer justement la diversité de ces corps et puis malgré leurs différents handicaps, leur capacité à défiler, à parader.
Odile nous appelle de Paris. Bonjour Odile.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi cette cérémonie hier soir?
Oui, à la télévision.
Avec un petit regret, je crois.
Un grand regret, c'est que je pense que les personnes qui sont sourdes et malentendantes ne doivent pas être exclues de cette cérémonie. Et j'ai été très étonnée qu'il n'y ait pas de traduction en langage des signes, au moins le langage des signes français, peut-être même une autre en langage des signes. Mais voilà, je trouvais que c'était un peu paradoxal de lutter contre l'exclusion et en même temps ne pas tenir compte des téléspectateurs qui sont sourds
donc,
et malentendants.
Commentaires non traduits, nous dites-vous, en langage des signes, voilà. Manon Derdevet?
Pas simplement les commentaires, mais les discours. Enfin,
Tony Estanguet, Andrew Parson, le président du Comité international paralympique. Je vais laisser Manon Derdevet vous répondre, Odile.
Alors, j'ai pas regardé la cérémonie à la télévision,
vous
puisque j'étais sur place, mais en tout cas, tous les discours de Tony Estanguet et puis du président du Comité paralympique, ils étaient bien traduits en langage des signes et ils étaient aussi sous-titrés,
ouais,
en français et en anglais. Donc, c'était...
Peut-être
accessible.
À la télé, ça s'est pas vu.
Mais il y avait une diffusion sur le site des Jeux paralympiques avec cette version-là, donc celle qui était diffusée dans les stades. Donc c'était peut-être pas celle qui était sur France Télévisions.
On a écouté la Marseillaise. Je voudrais qu'on écoute un autre morceau qui a marqué évidemment cette soirée. C'est le vôtre, Lucky Love.
It will be short, I didn't try. Is it coming to your mind that I do?
On a beaucoup de messages pour vous, Lucky Love. C'est Jacqueline qui nous dit « Je suis trop ému pour parler. Je voudrais dire merci à Lucky Love pour son discours et ses performances et d'être un modèle. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui, comme vous, découvre à l'adolescence son homosexualité, qui comme c'est votre cas, un handicap là où vous êtes arrivé aujourd'hui, quel message vous avez envie de faire passer à ces jeunes qui nous écoutent ?»
le seul message que je puisse faire passer, c'est que tout est possible, que la liberté se trouve dans la limite et qu'il faut savoir simplement la briser, cette limite-là, puisqu'il n'y a aucune limite, il n'y a aucune limite à notre humanité.
Il n'y a aucune limite non plus dans le classique, Jean-Christophe Spinozzi, pour tous ceux qui nous écoutent, qui vivent avec un handicap et qui veulent découvrir la musique, la pratiquer.
Je vais vous dire, je vais citer un des plus grands violonistes qui soit vivant et qui s'appelle Yitzhak Perlman. Et il a eu la polio quand il était jeune il est devenu peut-être le plus grand violoniste du monde. Vous savez, c'est lui qui joue sur la bande originale de la liste de Schindler. C'est un violoniste américain. Et il a fait le tour du monde, il a transformé, beaucoup de salles de concert se sont équipées de la rampe Perlman pour les handicapés. Donc il a fait équiper malgré lui des salles de concert. Et lui qui a eu tant de mal à marcher, il a joué comme personne avec ses bras, ses mains se sont transformées en ailes. Donc non, il n'y a pas de limite. Et puis avec l'amour, la musique c'est de l'amour, tout est possible, comme disait Lucky.
Merci Jean-Christophe Spinozzi. Votre prochain concert à Paris le 18 décembre au Théâtre des Champs-Élysées pour un concert de Noël revisité. Pour Lucky Love, je suppose que les propositions ne vont pas manquer. Votre premier album I Don't Care If It Burns sortira au mois de novembre et vous serez en concert à la Gaîté Lyrique à Paris le 21 novembre. Merci à tous les deux. Merci également à Manon Derdevet d'avoir été avec nous et vraiment encore une fois infiniment bravo et merci de la part de tous les auditeurs de France Inter. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, notre feuilleton en Haute-Garonne au sud de Toulouse, toute cette semaine, à l'âge précisément, où s'est installée depuis 7 ans l'école de la transition écologique, une école qui forme aux métiers manuels de l'environnement, comme la menuiserie ou l'entretien des panneaux solaires. Une école baptisée Être, qui a fait des petits depuis 7 ans, avec 20 écoles labellisées en France et 10 autres en gestation. On suit aujourd'hui notre reporter Rémi Brancato, c'est le début de la journée à l'âge.
Donc là on passe sous l'arche, une arche qui a été fabriquée avec plusieurs groupes, tout en bois de récup, puisque ici c'est notre matière première.
Alors là, tous les matins en fait, les salariés, les stagiaires, les encadrants font une 10 minutes d'échauffement, voilà, pour bien se réveiller.
Et 10. On passe à côté de notre zone de compostage qu'on a appelée le chemin de compostage.
Doriane Sylvestre, vous êtes la co-directrice de l'association 3PA qui porte donc l'école de la transition écologique, Être. Vous nous faites la visite ?
Oui, alors on a des espaces de travail, des espaces de formation. Ici on est une école et pourtant on n'a aucune salle de classe. C'est vraiment, on apprend par la pratique. On a aussi un chantier d'insertion, on a une cantine anti-gaspi.
On va aller à droite maintenant.
Très bien, on monte dans les bureaux. Devant la photocopieuse.
Qu'est-ce que c'est qu'un métier de la transition écologique, Doriane ?
Les métiers verts, c'est les métiers qu'on a créés, développés vraiment pour prendre en compte la transition écologique. Ça va être les métiers de l'énergie renouvelable, les métiers de l'eau, etc. Pour certains métiers, on va parler de métiers verdissants. Et là, c'est plutôt des métiers qui changent leurs pratiques. Par exemple, la menuiserie qui aujourd'hui développe de nouvelles pratiques. Cette idée de l'école à transition, elle est née, donc ça a été un long chemin pendant 20 ans quand même. Et au départ, c'était plutôt des actions qui étaient menées dans les quartiers de Toulouse. Et puis rapidement, les jeunes ont dit, parler transition écologique au milieu du béton, c'était pas si simple. Premier constat, c'est celui-là, donc on s'est dit, bon, alors on sort des bâtiments et on va à la campagne. Donc on est rapidement arrivé dans nos campagnes ici de Haute-Garonne, au sud de Toulouse, et c'est là que des jeunes ont commencé à dire, mais en fait c'est génial, moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de devenir un professionnel parce que mon problème aujourd'hui c'est de manger à la fin du mois, très concrètement. Et là c'était évident d'un coup, avec des métiers manuels et on pouvait manger à la fin du mois, donc la boucle était bouclée.
Allô ?
Bonjour Madeleine, c'est Morgane du réseau.
Oui, bonjour Morgane.
Je t'appelle pour notre petit point accompagnement. Alors moi je m'appelle Morgane Martin, j'accompagne les écoles en Occitanie, que ce soit des écoles en activité ou des écoles en cours de création.
Comment l'idée d'étendre ce modèle est venue, Morgane ?
Les jeunes ont dit, nous on habite à l'autre bout de la France, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans une école-être s'il n'y a pas encore d'école sur notre territoire ?
Ici en Haute-Garonne on forme à la menuiserie, dans d'autres départements, ce sera un autre métier de la transition ?
Oui, alors elles ont tout un socle commun sur les métiers de la transition, mais elles ont des spécialités. Donc ici à l'Age, beaucoup le travail du bois, vers Nîmes, la mobilité douce, la réparation de vélos. Voilà, selon les territoires et les partenaires, il y a des spécialités qui se développent. L'idée, c'est qu'il faut former aux métiers qui sont attendus sur ce territoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'emploi à la fin des formations, ça n'a pas de sens ce qu'on fait.
En fait, il y a des métiers aujourd'hui dont on a réellement besoin. Pour donner un exemple très concret, sur les énergies renouvelables, on sait construire des panneaux solaires, mais par contre, on manque énormément de main-d'œuvre pour installer ces panneaux solaires, pour faire la maintenance, etc. Donc on a 700 jeunes qui sont formés chaque année par les écoles Être en France, en tout cas avec les 20 qu'on a déjà actives. Une grosse partie des jeunes part après sur des formations vraiment autour des métiers manuels de la transition écologique, et d'autres partent sur d'autres chemins, mais en tout cas, on a pu leur apporter quelque chose à un moment donné.
Feuilleton signé toute cette semaine, Rémi Brancato, et que vous retrouvez sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49, le jeudi, nous parlons gastronomie avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest en direct de Bordeaux. Marie-Luce, vous avez souvent fait la route jusqu'à Eugénie-les-Bains dans les Landes pour retrouver le grand chef Michel Guérard, et aujourd'hui vous lui rendez hommage.
Jérôme, je débuterai en lisant l'extrait de l'un de ses discours prononcé à l'Institut Paul Bocuse. Il faut l'imaginer avec son sourire espiègle et son accent un peu pointu, hérité de son enfance normande. Certains se passionnent pour la peinture du Quattrocento ou celle orientaliste du XIXe siècle, d'autres pour les porcelaines de la Compagnie des Indes ou les sculptures mégalithiques de l'île de Pâques, d'autres encore pour le hockey sur gazon ou la tête de veau vinaigrette. Moi, ma passion, c'est le rêve. Michel Guérard avait 91 ans et jamais il n'a cessé de rêver. La tête dans les étoiles et ses mains au fourneau, il cuisinait dans son paradis des prés d'Eugénie dans les Landes. Depuis 47 ans, le guide Michelin lui décernait sans hésiter sa récompense suprême, les trois macarons. Pour tous les chefs de la gastronomie française, mais aussi espagnole ou japonaise, il était le dernier des très grands, et le plus attachant.
Parce qu'avec quelques autres, il est à l'origine de ce mouvement, la fin des années 60, qu'on a baptisé la nouvelle cuisine.
Flashback. Alors que le nouveau roman et la nouvelle vague secouent la littérature et l'industrie cinématographique, en cuisine, des jeunes chefs sonnent aussi l'insurrection. Ils passent à la casserole, les sauces lourdes et le formalisme des restaurants bourgeois. À Asnières, Michel Guérard a racheté à la bougie un bistrot de poche prisé des truands. Il y sert une salade folle, composée de haricots verts, d'asperges, de lamelles de truffes, de copeaux de foie gras cru et de vinaigre de xérès. Les critiques Henri Gault et Christian Millau adorent, l'américain Ted Kennedy, les stars Gainsbourg et Birkin, Deneuve et Mastroianni accourent en banlieue et découvrent ce petit homme joyeux à l'esprit vif et terriblement talentueux.
Et l'amour va faire le reste.
Oui, un soir chez Régine, il rencontre l'héritière de ce qui va devenir la chaîne thermale du soleil. Christine Barthélémy est une grande et belle dame brune, très bien éduquée. Elle tombe follement amoureuse de celui qu'elle surnomme son petit prince à la veste blanche, qui est issu d'une famille modeste. Elle le convainc de le suivre dans les Landes, dans la station thermale de son père, où ils vont édifier un palace à la campagne. C'est ici, au pays du foie gras, que Michel Guérard invente la cuisine minceur, qui lui vaut d'être le premier chef à faire la une de Time Magazine aux États-Unis. Star de la télé dans les années 70, il a toutefois toujours gardé une saine distance avec la notoriété.
Et dans son livre « Mots et mets » que vous avez réalisé avec lui, il montre à la fois ses talents d'écriture et bien sûr de cuisinier.
Et voici, dans ces mots, l'une de ses recettes intitulée « Oh purée, quelle carotte !» C'est fou les numéros de voltige que l'on peut suggérer à une carotte, dès lors que l'on parvient à la convaincre de s'acoquiner avec des partenaires qu'elle finit par juger dignes de son rang. Ainsi, cette purée qui s'accorde si divinement avec les crustacés ou les viandes blanches. Dans une casserole, j'émince en fines rondelles 300 g de carottes des sables recouvertes d'un peu d'eau froide salée et de 50 g de beurre en copeaux. 20 minutes de cuisson suffisent, mais 5 minutes avant la fin, j'introduis un brin de menthe fraîche qui va infuser et pigmenter de l'impertinence qui convient. Je verse 10 centilitres de crème liquide et porte à ébullition pendant 50 minutes, puis ôte la menthe. Je mixe l'ensemble, ajuste l'assaisonnement et introduis en douce deux abricots secs et néanmoins moelleux, taillé en tout petits dés. J'espère que vous serez, comme moi, séduit par cette aimable purée avec un zeste d'inhabituel qui agace la curiosité du dégustateur. Michel Guérard s'en est donc allé avec son élégance. Et puis cette phrase qu'il aimait tant, « Je cuisine comme l'oiseau chante, en toute liberté. »
Merci infiniment Marie-Luce Ribaud pour cet hommage tout aussi élégant. Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest dans C'est la France. C'est la France, c'est une chanson. Avec vous, Frédéric Pommier. Votre invité aujourd'hui est à la fois comédien et metteur en scène. Il s'appelle Julien Aluguette.
Il a obtenu cet été à Avignon le prix du meilleur metteur en scène du festival OFF pour la pièce Les Marchands d'étoiles qui se joue désormais à Paris au Théâtre du Splendide. Une pièce qui nous plonge dans un magasin de tissus pendant l'occupation. Les Allemands sont là, les collabos aussi. Le sujet est grave, mais les spectateurs rient beaucoup car le texte est rempli d'humour. Et c'est de Chantal Goya que Julien Aluguette a voulu me parler.
Le premier spectacle que j'ai vu de Chantal Goya, c'était au Palais des Congrès, en VHS, en 84, l'année de ma naissance. Donc moi, j'ai vu quelques années plus tard. Ça s'appelle « Mystérieux voyage de Marie-Rose ».
Bonjour, je m'appelle Magali.
Et moi, Olivier.
Moi, c'est Frédéric.
Bonjour, je m'appelle Marie-Rose.
Et d'ailleurs, pour moi, mes parents n'étaient pas très fans que je regarde ou que j'écoute ça. Mais il n'empêche que moi, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était les premières formes de spectacle que je voyais. Et il y avait quand même une dimension scénographique, épique dans son personnage, comme des gamins avec elle, voyager, voler, etc. Et il y avait quelque chose de complètement onirique et magique pour moi, et assez poétique même. Et je me rappelle vraiment être complètement fasciné par ce que je voyais sur l'écran. Et j'avais envie d'être un de ces enfants qui était... emmené avec Chantal Goya pour visiter les toits de Paris, rencontrer plein de personnages complètement fantastiques et merveilleux. Et c'est, je pense vraiment, elle, à 3-4 ans, qui m'a donné envie de faire du spectacle. Et pour ça, je la remercie.
Vous ne l'avez jamais invité à voir l'un de vos spectacles, Chantal Goya ?
Non, je l'ai jamais invité à venir voir un spectacle. Et je me suis dit, en cherchant la chanson pour aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que tu l'invites à venir voir un de tes spectacles, parce que c'est quand même trop dommage. C'est elle qui t'a donné envie. Et j'ai jamais osé, en fait, bizarrement. Je pense que je reste encore un petit enfant par rapport à cette dame.
Alors Frédéric, ce n'est pas la chanson la plus connue de Chantal Goya que Julien Aluguette a souhaité qu'on écoute.
Une chanson composée par Jean-Jacques Debout, son titre c'est « Oh, monsieur le dragon bleu ».
C'est pas une chanson qui est effectivement très connue, mais en tout cas moi c'est une chanson qui m'a marqué musicalement mais surtout visuellement. C'est-à-dire que à ce moment-là du spectacle, il y a un énorme dragon qui fait, je sais pas, 4 mètres de hauteur, qui est sur le plateau avec une main sur laquelle vient se positionner Marie-Rose, donc Chantal Goya. Le dragon parle avec de la fumée qui sort de partout. La main s'élève, Marie-Rose s'élève jusqu'à sa bouche. Il lui parle, elle lui répond, les enfants sont autour en train de chanter. Ouais, il y a quelque chose de grandiose en fait. Et à l'époque, c'était assez élaboré quand même. En tout cas, pour un enfant de 4 ans, c'était assez fascinant quoi. Il y a un truc dans cette chanson qui me bouleverse. Je ne saurais pas vous dire exactement à quel endroit ça se situe, mais en tout cas, ça m'attrape plus que les chansons que j'ai aussi chantonnées, Chaboté ou ce genre de choses, mais qui étaient un peu plus ludiques. Celle-ci, elle a quelque chose de plus grave. Et c'est ça peut-être qui m'a touché. Si
Ce spectacle dans lequel vous avez entendu cette chanson, Oh Monsieur le Dragon Bleu, c'est donc un spectacle que vous avez vu sur une cassette VHS.
Oui.
Petit, vous n'avez jamais été voir un spectacle de Chantal Goya.
Non.
Est-ce que depuis, vous êtes allé ? Est-ce que vous l'avez vu sur scène ?
Oui, alors en fait, c'est assez marrant l'anecdote, c'est que je suis assez pote avec Thomas Joly, j'espère qu'il m'en voudra pas de raconter ça, mais il y a 5-6 ans, on est tous les deux au Festival d'Avignon, on discute autour d'un pack à l'eau, et on parle de notre amour pour Chantal Goya, et que ça nous a marqué dans notre enfance, parce qu'on est à peu près de la même génération.
Il l'aime très fort lui aussi ?
Oui, oui, c'est quelqu'un qui l'a marqué aussi, il a déjà vu les spectacles, et du coup, je vois qu'elle passe à Paris. Elle était, je crois, au Casino de Paris. Et j'ai pris deux places et j'ai invité Thomas à venir le voir. Il savait pas du tout. Je lui dis, écoute, je te donne rendez-vous à tel endroit, telle heure. C'était un dimanche à 11h. Il me dit, mais où est-ce que tu m'emmènes et tout. Et quand il a vu l'affiche, il me dit, attends, c'est pas possible. Et on y a été et on avait de nouveau 4 ans. Et on s'est éclaté.
Chantal Goya, Oh Monsieur le Dragon Bleu, c'était donc Frédéric, le choix de Julien Aluguette.
Qui signe la mise en scène du très beau spectacle Les Marchands d'Étoiles, à voir actuellement au Théâtre du Splendide à Paris.
Merci Frédéric. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
De quoi parle-t-on aujourd'hui ?
Des pyramides de Gizeh.
Très bien, eh bien je vous dis à tout de suite.
À tout à l'heure.